carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Carrefour des Arts, aujourd'hui est au musée des années 30 à Boulogne-Billancourt et c'est le directeur de ce musée qui nous reçoit, Emmanuel Bréon. Emmanuel Bréon, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes au quatrième et dernier étage à l'espace Landowski et Marcel Landowski qui était donc membre de l'Académie des Beaux-Arts, également chancelier de l'Institut. Donc c'est tout naturellement que nous nous rendons ici vers vous pour parcourir le musée des années 30. Pourquoi avoir réalisé ce musée des années 30 ici à Boulogne-Billancourt? Emmanuel Bréon.
Alors, ce musée des années 30, il est là pour plein de raisons. On a parlé de Marcel Landowski, dont le père Paul Landowski a été sculpteur. Alors, l'une des raisons, par exemple, justement, c'est que sur Boulogne se trouvaient 32 ateliers de sculpteurs. Donc, Paul Landowski, Joseph Bernard, Max Blondat, Moreau Vautier, Marcel Loyaux, et tous ont œuvré dans le monde entier. Marcel Loyaux a fait les fontaines de Chicago, Landowski, le Christ du Corcovado à Rio de Janeiro. Donc, c'est des sculpteurs qui devraient être éminemment connus, pas toujours, puisqu'on passe devant leurs sculptures sans bien savoir que c'est eux. Mais donc, 32 sculpteurs. À Boulogne aussi, des peintres, des graveurs, des grands marchands de tableaux, Henri Kenveller, on va traverser sa salle tout à l'heure, des architectes qui construisent des ateliers. Au quatrième étage, justement, on accueille le public avec ces maquettes d'architecture de maisons qui existent encore à Boulogne. Donc on a un parcours dans la ville, c'est en quelque sorte un musée de site. Et donc une fois qu'on a fait le parcours dans la ville, à la découverte des maisons de Patou, de Le Corbusier, de Malestévins, de Fort-du-Jarric, de Pingusson, on découvre au musée leur mobilier réalisé par eux, le portrait de l'architecte. Par exemple là on est devant Auguste Perret, éminemment connu, hein, Perret dont le Havre vient d'être classé au patrimoine mondial de l'humanité. Et ben Perret réalise dans les années 20, donc deux ateliers pour une femme sculpteur, Dora Gordine, et pour Marguerite Huré, qui était maître verrier et qui a fait tous les vitraux de ses églises, notamment le Raincy.
Au cours des années 30, il y a plusieurs courants artistiques qui se succèdent. Donc bien sûr, il y a l'art figuratif, l'art déco, également l'art sacré. Quels sont encore les autres courants artistiques ?
Alors, Boulogne était emblématique hein, de beaucoup de choses, et c'est ce qu'on découvre au musée. Donc on a effectivement un musée de l'histoire du goût, des années 30, plus que le Centre Pompidou, par exemple, qui va présenter évidemment l'avant-garde, Léger, Klein, l'art contemporain. Nous, c'est plutôt un musée qui passe toute l'entre-deux-guerres et qui va présenter les différents courants, les différents modes d'expression. Donc la reconstruction du nord de la France va impliquer la décoration des églises. Donc on a Maurice Denis, Georges Desvalières, on a toute une salle qui leur sont consacrées. Nous sommes amusés à pister aussi les artistes français partis à l'étranger, partis dans les anciennes colonies. Alors, c'est l'ancienne Indochine, c'est l'Afrique noire, c'est les pays du Maghreb. Et on s'est dit que cet art-là, bien qu'il ait été fait pendant la période coloniale si décrit aujourd'hui, on pense qu'il fallait le montrer parce qu'il y a des réussites formidables. On pense à Paul Jouve, on pense à Alexandre Diakovlev qui va accompagner les croisières noires, les croisières jaunes Citroën. Donc ce sont des artistes importants et qui sont redécouverts aujourd'hui et qui ont magnifié en fait les gens qu'ils voyaient. Et c'est comme ça que c'est ressenti aujourd'hui d'ailleurs par le public.
Par quoi souhaitez-vous commencer, Emmanuel Bréon, pour commencer cette visite du musée des années 30 ?
Alors on peut prendre le musée dans les deux sens.
Oui.
Donc c'est un musée à la fois, vous comprenez, très municipal. On est à Boulogne. Qu'est-ce qui s'est passé à Boulogne ? Alors l'architecture, la peinture, la sculpture. On n'a pas parlé de l'industrie, très importante.
Oui, bien sûr.
Auto, Renault, aviation, Farman, Voisin, Blériot, Cap Ferrer, Samson, Hénopeltri, Astra Surcouf pour les ballons dirigeables. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que Boulogne est à la pointe de la modernité dans tous les domaines. Vous avez le cinéma, les studios de Boulogne, les studios de Billancourt. Gaby Morlaix, par exemple, la grande actrice de cinéma, habite une maison années 30, décorée par Jules Leleu. Et puis, elle est aussi la première femme à avoir son brevet de pilote d'aérostat, ce qui fait une ville, vous voyez, très passionnante parce que les gens se mélangent et pratiquent un petit peu à la fois l'industrie et les arts. Donc, le musée raconte tout ça. Et ce quatrième étage, par lequel nous entamons la visite, reprend un peu ces thématiques alors de l'architecture, parce qu'on peut dire qu'à Boulogne est née l'architecture moderne, avec les premiers pas de Le Corbusier. Là, nous sommes devant une maquette d'une maison réalisée pour un Russe, Oskar Michaninov, et un Lituanien, Jacques Lipschitz, le grand sculpteur cubiste, sur lequel on a réalisé une exposition il y a 2 ans. Alors, vous avez des maquettes d'André Lursa, le frère de Jean Lursa, une maquette qui représente un ensemble de 3 maisons très célèbres, celle réalisée par Robert Malestévins, Robert Malsévin, on l'aperçoit un peu plus loin avec son portrait réalisé par Jacques-Émile Blanche. Et puis, sous le portrait, la chaise Malsévin, la chaise Tubor, qui était la première chaise de collectivité empilable. Là, nous sommes dans la rue des Modernes à Boulogne. Hein, c'est la rue du béton lisse et peint en blanc avec de la ferronnerie qui n'en est pas d'ailleurs, qui était du tubulaire. Voilà, alors là vous êtes devant un ensemble très prestigieux. L'un des grands sculpteurs de Boulogne est Joseph Bernard, fils de tailleur de pierre. On est dans l'après-Rodin, retour aux formes simples, classiques, concentrées, et non pas dans la sculpture trouée de Rodin ou très expressionniste. Et Joseph Bernard habitait Boulogne, son grand ami était Ruhlmann, et Ruhlmann va lui composer l'intérieur de sa maison. Et là, on est très fiers de ça, parce que c'est un très bel ensemble, buffet de salle à manger, commode demi-lune, petit canapé très très moderne mais qui est daté de 1917, donc très en avance. Grande bibliothèque, table de salle à manger, pare-feu et porte-parapluie d'Edgar Brandt. Puis au mur, vous avez des tableaux de Louis Bouquet pour le musée des colonies, qui était un ami de Ruhlmann également. Et puis une grande Diane Chasseresse par Anne Carlu. Anne Carlu, qui est la femme de Jacques Carlu, je pense qu'elle était aussi membre de l'Institut, et qui était l'architecte du Palais de Chaillot.
Donc là, à la fois, on a de l'art colonial, du néoclassicisme.
Tout à fait. Oui, un ensemble assez varié. C'est vraiment le goût de ces années 20-30 qu'on peut redécouvrir ici au musée de Boulogne. Alors, sur le mobilier, on a quelques pièces formidables.
Alors là, par exemple, cette commode, apparemment, elle est aussi très intéressante.
Oui, c'est le meuble au char de Ruhlmann. Et c'est en quelque sorte le premier meuble art déco. Ruhlmann, en 1913, propose un petit meuble triplan. Le même pratiquement, mais en plus petit, au salon d'automne. Et là, tous les gens sont stupéfaits, parce qu'on est encore dans Hector Guimard, dans Horta, dans l'Art Nouveau. Et Ruhlmann propose un meuble très, très droit, très classique, sur pied-fuseau. Pied-fuseau qui correspond aux robes-fuseaux de Paul Poiret. Voilà. Donc c'est le retour à l'ordre, retour aux formes, vous voyez, à la Grèce antique, le drapé,
char,
voilà.
Oui.
Alors le char, en plus, le motif qui donne son nom au meuble, est un dessin de Picot, qui travaillait chez Ruhlmann, celui qui a fait d'ailleurs la devanture, la façade des Folies Bergères, donc un artiste aussi art déco avant la lettre. Alors les autres créateurs, c'est Jules Leleux, c'est Pascot, c'est Eugène Prince qui a fait le bureau du maréchal Lyautey dans l'ancien musée des colonies. Vous avez des maquettes de maisons ici importantes aussi, mais là on n'est plus avec Le Corbusier ou Malestévin. Ici on a de la brique, on a un décor en façade.
Donc là c'est Courrèges.
Voilà, c'est Jean-Léon Courrèges. Alors Jean-Léon Courrèges, c'est une grande maison dans le style néo-régional. Courrèges voulait absolument construire dans les matériaux, vous voyez, de la région traversée. Boulogne, là c'est pas un exemple très... parce qu'on a toutes sortes d'architecture à Boulogne. Mais donc... le personnage important qui habitait cette maison, c'est André Malraux, de 45 à 62. Et André Malraux disait lui-même « J'habite une grande maison des Flandres ». Donc c'est les maisons qui correspondent à Tourcoing, Roubaix, et toute la Lambersarthe, toute la banlieue de Lille. Vous en avez une autre aussi qui est importante, c'est Emilio Terry, architecte cubain qui va construire pour le Showbiz, pour les Bestegui, pour Gilbert de Crance. Et là, c'est une maison qui a été habitée par Piaf et Cerdan. Donc c'est une ville qui fédère énormément de jeunes talents, parce qu'ils sont oui. jeunes à l'époque, dans cet univers assez accessible. On a passé les fortifications de Paris, on a passé un octroi, mais on est encore un peu à la campagne. Et ça permet à donc tous ces créateurs, architectes, peintres, sculpteurs, essayistes, écrivains, de s'installer à bon compte.
Nous Nous croisons également de nombreuses affiches qui sont en rapport avec l'industrie de l'époque. Alors bien sûr Renault et puis également Farman.
Pour évoquer l'industrie, on n'avait pas assez de place pour mettre des moteurs ou des voitures. Donc l'idée c'était de mettre des grandes affiches qui sont superbes de Renault. Là on en a une qui est des années 1917-18, avec des voitures qui sont encore des sortes de caisses à savon montées sur roues. Et puis ensuite, vous avez une immense affiche d'une voiture de course, une torpedo qui file à grande vitesse, avec des hommes à casquette. C'est une très belle Renault, mais là, on est en 1925. Renault a été chez Ford et commence à carrosser ses voitures, à leur donner un design.
C'est ça aussi Boulogne, c'est ce mélange d'une population ouvrière et un mélange aussi d'artistes.
Oui, c'est une ville encore assez mixte d'ailleurs Boulogne, c'est une ville intéressante pour ça, parce qu'on trouve toutes ces traces, bien sûr les grands bâtiments sont partis, l'île Seguin maintenant est plate, mais on a encore tous ces souvenirs bien en tête. Vous avez énormément de souvenirs sur Renault, de photos de l'île Seguin, de brochures, des sorties d'ouvriers aussi sur la place Jules Guay, de la place nationale. Alors là, dans ce groupe d'ouvriers, on aurait pu peut-être trouver Nina Berberova, écrivain, qui a écrit, vous savez, les chroniques de Billancourt et surtout un livre qui s'appelle « C'est moi qui souligne », qui sont ses mémoires, où elle parle beaucoup de Boulogne, puisqu'elle habitait dans une rue, la rue Traversière, qui arrivait sur cette place.
Nous sommes quand même dans l'entre-deux-guerres. Est-ce qu'il y avait justement une joie de vivre ou est-ce qu'il y avait aussi ce mélange de rigueur ?
L'entre-deux-guerres, on présente souvent cette période de manière assez noire. Alors souvent résumée par, vous savez, l'Expo 37, les deux bâtiments, l'Allemagne nazie face au bâtiment de l'Union soviétique. Oui. Mais en fait, c'était une période d'intense, je pense, création, de remise en question de beaucoup de choses. On n'est pas en 1968, mais quand même, il y a une effervescence, il y a l'ethnographie, la naissance du musée de l'homme, le paquebot Normandie. Enfin, il y a des tas de choses très, très positives. Et sur Boulogne, on sent cette effervescence et en même temps, effectivement, ce mélange un peu de rigueur et en même temps de richesse et de pauvreté, parce que, par exemple, chez Renault, vous avez 40 000 ouvriers, mais quelquefois, ils ont un petit peu de mal à vivre. Donc, pour compléter leur salaire, ils vont faire la queue dans les studios de cinéma, sur les studios de Billancourt, et s'engager comme figurant dans des films. Donc, il y a toute une sorte de grande mixité qui est très intéressante à cette époque et en ce point capital des années 30 de Boulogne.
Nous avons donc une série de peintures et on a l'impression de revenir vers les cubistes.
Oui, alors on n'en a pas parlé au début, ce musée est un musée à la fois du goût de l'époque, et notre collection est plutôt tournée vers la figuration des années 30, alors ce n'était pas du tout idéologique comme choix, mais on s'est dit de toute façon qu'il fallait qu'on ait une spécialité en Ile-de-France et juste à côté de Paris, et donc de présenter plutôt Tamara Mlempicka, Varroquet, La Patellière qu'on va découvrir, plutôt que Fernand Léger qu'on peut voir au Musée National Art Moderne, comme les Klein ou Rothko au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris,
oui,
ou Picasso au Musée Picasso. Voilà. Donc être complémentaire, on n'est pas dans une métropole régionale, on est sur le métro, sur le bus, à quelques encablures de Paris. Alors là, cette salle dans laquelle nous sommes précisément, c'est un peu une sorte de respiration dans la figuration, puisque c'est quelques modernes à Boulogne, aussi à cette époque. Et donc Canveller, Daniel-Henri Canveller, vient s'installer en 21. Vous savez qu'on lui confisque ses collections parce qu'il était allemand. En 40, il se cachera dans le Limousin puisqu'il était juif. Donc deux fois dans sa vie, il recommence presque à zéro. Donc on sent qu'il vient en 21 à Boulogne pour se mettre un peu au vert. Et là, il va inventer ce qu'il a appelé lui-même les dimanches de Boulogne. Et donc il invite autour de lui des jeunes créatifs,
des artistes,
des écrivains. Malraux va faire son premier livre chez Canveller, l'éditer chez Canveller. Il a inventé à Boulogne le concept de livre d'artiste. C'est-à-dire pendant le pique-nique du dimanche, Desnos rencontre Picasso. Donc ils font un livre ensemble. Pierre Reverdy va rencontrer Jean Gris. Donc là, on est devant une toile de Jean Gris. Jean Gris, qui habite également Boulogne, va faire l'illustration du livre de Reverdy. Et puis ainsi de suite, vous avez Élie Lascaux, le beau-frère de Canveller, Gertrude Stein, qui vient aussi à Boulogne. Fernand Léger, Picasso, ils sont tous là. Roland Thual, Armand Salacrou pour le théâtre. Énormément de gens viennent Diana Boulogne, chez Canveller. Et donc, c'est une salle qui raconte toute cette aventure intellectuelle de la modernité. Aller vers l'orientalisme des années 30. C'est une salle qui est très appréciée au musée, qui n'a pas été comprise forcément quand on a ouvert le musée en 1998.
Orientalisme, c'est l'art colonial, c'est ça ?
Voilà, ça correspond à cette époque historique de l'entre-deux-guerres, où en fait, d'ailleurs, les colonies commencent à être décolonisées. Mais je pense que c'est une période importante parce que c'est l'une des périodes où les gens se rencontrent pour la première fois, c'est le goût des autres, on pourrait appeler ça comme ça. Il y a un livre qui est sorti là-dessus. On n'est pas dans l'orientalisme du 19e avec des fantasmes, l'esclave. Enfin bon, on n'est pas là-dedans. On est dans un regard très attentif, très admiratif de ces artistes européens sur ce qu'ils voient en voyageant. Certains s'installent. Il y a la Villa Abdeltif à Alger qui va accueillir un peintre et un sculpteur pendant 2 ans. C'est une sorte d'Académie France à Rome, mais déplacée. Et une production aussi dont on peut souligner le côté féminin, puisque 50%, quand on avait fait un index des 1500 artistes partis, 50% étaient des femmes. Donc c'est assez curieux en fait. Donc, et souvent des aventurières. Alors on connaît Karen Blixen, Catherine Ebrard. Mais donc à Boulogne, on a Lucie Ranvier-Chartier, Germaine Baude qui part seule au Maroc. Et puis donc il y a plein d'autres noms. Vous avez Yvonne Mariotte, Marthe Flandrin, Elisabeth Faure, Marcel Aquin qui peignent des tableaux extraordinaires.
J'imagine que ces œuvres arrivent au moment de l'exposition coloniale, mm-hmm. l'exposition internationale coloniale, et de ce fait c'était peut-être pour donner une image aussi positive de ces colonies, une image lisse, on ne voit pas de scènes d'horreur.
Non. En fait, il y a eu ça, il y a eu des... Mm-hmm. Par exemple, on a des petits bas-reliefs ici, avec une imagerie très colonialiste, c'est les maquettes d'Évariste Jonchère, pour la Cité des Informations à l'Expo coloniale. Alors, on voit la France au centre qui reçoit des colonies. Et puis l'autre bas-relief, c'est la France donne aux colonies. Mais la France est toujours au centre. Et à donner, on voit bien la machinerie, l'industrie aux colonies. Ça, c'est les images naïves, je pense, de l'époque. Et puis à l'opposé, mais par le même sculpteur, vous avez par exemple le buste d'Habib Benglia, qu'on pourrait qualifier d'ailleurs un journaliste du Monde trouve ça épouvantable en 98 en se disant « Mon Dieu, c'est un buste racial, un buste ethno, on présente un Sénégalais ». Non, en fait, cette sculpture n'est pas du tout ça. C'est Évariste Jonchère qui va, à mon avis, réaliser ici l'un des plus beaux portraits d'un Africain en sculpture. Ce personnage qui est représenté est étonnant. C'est l'un des grands acteurs de la vie culturelle française de l'entre-deux-guerres. Il est danseur chez Joséphine Baker. Il est le premier acteur noir du cinéma français puisqu'il est au générique des Enfants du Paradis. Et puis, quand Jean-Paul Belmondo est venu pour voir l'œuvre de son père ici, il m'a dit « Mais j'ai tourné, j'ai joué avec Habib Benglia ». Donc on n'est pas du tout dans une représentation raciale, coloniale, mais au contraire dans un hommage total d'un ami à son ami Habib Benglia.
Vers l'art sacré, qui est aussi donc une période des années 30.
Voilà. Alors l'idée, chaque année, quand on faisait une expo temporaire, avant d'avoir ce nouveau musée ouvert en 98, on trouvait un sujet. Et on avait fait art sacré au XXe siècle, en 1992. Exposition qui nous a valu énormément de dons, parce que ce musée est un musée de la générosité. En fait, il y a eu 80% de choses données. Donc la famille de Maurice Denis nous a offert, ici on est devant la décoration du collège d'Ulst. On a aussi les béatitudes pour l'église Saint-Louis de Vincennes. Vous avez Marthe Flandrin pour Sainte-Geneviève de Nanterre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est tout simple, enfin, c'est tout simple et c'est triste aussi. C'est évidemment l'après-guerre de 14-18. Denis et Desvalières décident en 1919 de refonder l'art sacré, de mettre Saint-Sulpice dehors. Il ne supportait plus, Denis disait, c'est le diable dans l'église. Et donc, revenir aux fondamentaux, revenir à Giotto, on le voit très bien avec tout ce qui est autour de nous, revenir au Quattrocento italien. C'est la reconstruction du nord de la France, toutes ces églises de la Somme qui sont reconstruites. Il y a aussi les chantiers du cardinal. Le cardinal Verdier décide de faire une centaine d'églises en à peine 10 ans. Et donc en 1937, le pavillon pontifical de l'Expo 37 sera le numéro 100. Donc il réussit un pari extraordinaire. Et alors pour ces églises, il faut des artistes. Et donc c'est ceux que nous avons autour. On est toujours parti d'un exemple à Boulogne, c'était oui. Sainte-Thérèse, une église des chantiers du cardinal en briques. Et qui a été décoré alors par un moderne, pas par l'équipe Denis Desvalières, mais par Jean Lambert-Ruquy, qui fait partie de l'Union des artistes modernes avec Malestévin. C'est une chapelle tout à fait étonnante.
C'est très stylisé, il y a quand même beaucoup de formes géométriques, c'est assez raide.
En tout cas, pour Lambert-Ruquy, on voit quel passage. Il a regardé l'art africain, il a regardé les masques, il a regardé les mains, les masques. Son Christ aussi est très à la fois symboliste et réaliste, mais il y a un côté aussi assez naïf chez Lambert-Ruquy qui est à remarquer. Son église est admirable à Boulogne, il faut absolument la voir. Vous avez à côté une maquette un peu plus classique pour Sainte-Jeanne de Chantal, porte de Saint-Cloud, par Carlos Arabezol. Carlos Arbozol est ce sculpteur qui sculpte dans le béton frais, le béton en prise, il faut aller très vite. Donc ces artistes ont inventé des choses, réinventé un art religieux. Là, on est devant une crucifixion de Desvalières.
Pareil, là, toutes les formes sont, surlignées de noir.
Voilà, ah oui, Desvalières est un peintre très important, qu'on ne connaît pas assez, qui était un ami de Georges Rouault. Ils étaient tous les deux d'ailleurs chez Gustave Moreau, et donc on le sent très très bien ici. Et Desvalières, lui, est plutôt un osseur avant la guerre. Et puis pendant la guerre, il perd sous ses ordres un fils, et donc il va se donner, dès 1919, c'est un vœu, et il dit je me consacre à l'art religieux avec Maurice Denis. Toutes ces scènes religieuses sont souvent très très expressionnistes, sur fond tranché. C'est quand même l'auteur des vitraux de l'ossuaire de Douaumont, et donc on a toujours des gueules cassées derrière, on voit des soldats dans les tranchées.
Les couleurs sont sombres, mais je trouve qu'il ressort beaucoup de violence, même s'il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de couleurs comme ça qui peuvent rappeler la chair, le sang.
Voilà, y a un côté très tragique chez Desvalières, comme chez Rouault. Et c'est vrai que l'Église aura peur un petit peu. Elle va faire plutôt appel à Maurice Denis, qui est plutôt dans la foi de la petite enfance, qu'à Desvalières ou Rouault, qui sont dans une foi de convertis. Et Rouault, quand on y pense, fait ses premières crises dans les années... les premières années du XXe siècle, il rentrera dans une église au plateau d'Assy que dans les années 50. Donc nous allons descendre à l'étage des grands thèmes.
D'accord.
C'est un groupe de jeunes artistes qui sont présents dans cette salle, qui s'appelle Force Nouvelle, qui veulent rompre avec le post-cubisme et les ficelles un peu du métier et revenir à la grande peinture de tradition.
Alors justement, nous sommes devant un tableau qui est un peu particulier. Alors il me semble que c'est un tableau qui a été réalisé pour illustrer la guerre espagnole, c'est ça, hein ?
C'est ça.
C'est très épuré, en fait, on voit ce sont des pleureuses, ce sont...
Oui, c'est des femmes, c'est un côté très... Alors on voit ici, donc c'est un tableau de Robert Imbleau, Et un Blot à 25-30 ans, ils ont cet âge-là, tous ceux qu'on a autour de nous. Hein, Tal Coat, tout jeune. Vous avez aussi André Marchand, Daniel Octobre, Ried Rome, ou Jean Souverbi. Raymond Dossi aussi, avec un tableau de la guerre. Ils sentent que quelque chose va se passer. Il y a déjà des choses terribles qui ont démarré. Et là, un Blot peint la guerre d'Espagne. Donc c'est une sorte de petit Guernica français. C'est un massacre, sans doute, pas loin de Guernica, au Pays Basque, avec ces femmes en pleurs. Alors on sent bien sûr l'allusion au tableau de Le Nain, il y a la peinture flamande qui est derrière. Donc ils vont regarder un peu cette peinture ancienne et la retrouver, la réadapter.
Et tout en l'épurant, puisqu'il n'y a pas de décor, on a même l'impression que ces personnages sont comment ? En lévitation,
ils sont en lévitation, oui, sur une sorte de paysage lunaire.
Oui.
On a la même impression, je pense, avec la jeune fille au bol de Pierre Tal Coat. Pour terminer avec la guerre, Jean Souverbi, qui habite rue Traversière, comme Nina Berberova à Boulogne, et qui, en septembre 1943, constate les bombardements de sa fenêtre, bombardements américains sur les usines Renault, qui vont en fait détruire les usines Renault et malheureusement causer aussi la mort de 500 personnes sur Billancourt. Donc il y a une tragédie forte sur la ville à ce moment-là. Et on voit Souverbi...
C'est très particulier, c'est un autoportrait. En même temps, il y a une information
d'un immeuble
journalistique.
En feu. Oui, journalistique, tout à fait. Oui, oui, c'est un peu la Quirico. Hein. C'est quelque chose d'énigmatique. On ne sait pas trop d'ailleurs en nous regardant ce qu'il veut nous dire.
Oui, tout à fait.
Juste avant la guerre... c'est le Front populaire, c'est les baigneuses. Alors là, vous avez une grande baigneuse de Georges Sabag, qui est le père de l'homme de télévision Pierre Sabag, la Vénus à la Diomène, 1922. Alors là, il est très, très crâneur, on pourrait dire. Sabag, il se dit, je vais faire mieux que Bouguereau et les autres, mieux que les pompiers. Je vais présenter ma Vénus, qu'il appelle donc Vénus à la Diomène pour le salon. Et au lieu de naître dans un coquillage, l'idée moderne de son tableau, c'est de la faire naître dans un drap de bain.
Dans un drap de bain.
Voilà, avec un petit paquebot derrière qui signe bien l'époque et le. Alors il s'agit du portrait de sa. Voilà, l'époque des croisières.
Sur les plages en été, il est toujours bien porté de s'exhiber au soleil dans le plus simple appareil. On faisait à Houlgate des concours de monoplate, on faisait au Touquet des concours de mollet. Il paraît qu'à Deauville, on montrait son nombril, et même qu'à Saint-Adresse, tout le monde montrait ses. C'est une mode très commode. Se montrer nu est ingénu quand la mode est au nu. Le soleil a le sourire. Et chacun, pour se faire frire, sans pudeur, étale sa nudité. Une baigneuse m'a même déclaré, j'ai une cabine charmante, 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 dont les cloisons sont transparentes, transparentes. Elle est vraiment toute petite, toute petite. C'est bien plutôt, disons le mot, une guérite.
Nous sommes devant une sculpture de Paul Landowski, qui était donc le père de Marcel Landowski. On trouve une sculpture classique, si j'ose dire, par rapport à tout ce que nous avons pu voir.
Oui, alors les sculpteurs de Boulogne, pour la plupart, à part Jacques Lipschitz, sont plutôt des hommes qui racontent une histoire, enfin qui sont dans la figuration. Et alors, c'est la fois classique et moderne. Ici, on est devant le pugiliste de 1920, c'est le boxeur Georges Carpentier. Et donc là, on est, vous voyez, dans le sport, on magnifie les corps. C'est aussi très typique de cette période de l'entre-deux-guerres où beaucoup de maladies ravagent les campagnes, les banlieues. Vous savez, la tuberculose est importante. Donc on demande aux architectes de l'air, de la lumière. Et en sculpture, ça se retrouve par une volonté de manifester,
magnifier
de magnifier les corps, voilà. La baigneuse, le pugiliste, il est d'ailleurs représenté nu, en fait.
Oui.
Ce qui fera scandale, d'ailleurs, quand Landowski présente ça au salon. Mais comme Voltaire, vous savez, de Houdon avait scandalisé quand il avait présenté également nu.
Les bains de soleil, y a rien de pareil pour les nus, beaux ou mal fichus. Ces appâts, comment les appelle-t-on ? Galantine, galantine, cachez donc ces gros ballons que l'on étale à profusion. Ne montrez que vos petits boutons.
On a au passage à cet étage un cabinet des dessins où le public. Alors vous avez actuellement un accrochage des dessins de mode avec Georges Le Pape, Alexandre Zinoviev pour des revues. Vous voyez, c'est des gouaches originales pour Vogue, pour Femina. dessins extraordinaires aussi. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ces créateurs d'images.
Oui, c'est très joli.
Surtout que c'est vraiment, là vous avez les originaux des artistes. La mise en page là, pour le Vogue par Georges Lepape est formidable. C'est Tamara de Lampica, c'est la garçonne, la femme moderne qui est au volant de sa voiture. On ne voit pas la voiture, on voit juste son foulard qui part derrière elle et qui dessine Vogue. Voilà.
C'est très particulier, ces visages effilés, ces arrondis, mais tout en longueur.
Oui, on veut styliser, hein, c'est une période de stylisation. On a un petit dessin de Le Pape qui est très amusant, qui monte une voiture des années 1900 avec juché à l'arrière de la voiture un caniche. Là, c'est l'art nouveau, en quelque sorte. Et sur le devant, la voiture, la garçonne aux cheveux courts, elle n'a pas la cigarette au bec, mais elle pourrait l'avoir, parce que la femme fume, la garçonne fume, elle conduit des voitures, elle est libérée. La guerre de 14 est passée dernière, donc beaucoup de femmes se sont mises au travail. Et donc, elles n'ont plus forcément besoin de l'homme à cette époque-là. Donc voilà, un petit clin d'œil de Le Pape, et même le chien, qui n'est plus le caniche, mais un fox terrier.
Qui est aussi très stylisé.
Très stylisé années 30, voilà.
Parmi les dessins, il y a certaines planches qui font penser comme des planches d'Hergé.
Oui. Alors là, on est devant toute une série très amusante. Là, c'est une femme artiste, c'est Elisabeth Branly. Et c'est cette femme, dans les années 14, 18, 1920, réalise ses dessins de mode, ses caricatures, qui sont effectivement de vraies couvertures pour Tintin.
Oui, tout à fait.
On est vraiment dans... C'est la famille Fenouillard, voilà, ça évoque beaucoup de choses. Ou Adèle Blanc-Sec, pour ceux qui connaissent l'un des personnages de Tardy. Alors on peut découvrir dans le cabinet des dessins, un petit peu sur le modèle du musée Gustave Moreau. Voilà, on ouvre des tiroirs. Et on a au moins 10 000 dessins au musée. Alors, ils ne sont pas tous exposés dans ces tiroirs. C'est quelque chose que finalement qu'on ne voit pas dans les musées, le dessin, et on l'offre au public plus facilement.
Dans l'autobus où j'étais assise, un beau jeune homme un jour s'est assis. Il m'a dit, connaissez-vous Venise? J'ai répondu, je vais à Passy. Voulez-vous que je vous y conduise? Nous pourrions prendre un petit taxi. Et puisque vous semblez indécise, désirez-vous que je précise? Si la question vous embarrasse, et si vous ne comprenez pas bien, faut-il que je vous fasse un petit dessin?
Alors la salle des portraits est importante pour nous ici parce qu'on a de nouveau une Joconde.
Portrait, une Joconde homme.
Homme, voilà. C'est Tadeusz de Lempicka par son épouse Tamara de Lempicka.
De Lempicka.
Voilà, qui est cette femme extraordinaire qui de 1919 à 1929 va être au sommet de son art pendant 10 ans. Elle vient de nulle part. Pierre Rosenberg se pose souvent la question, mais d'où vient-elle? Quel est cet ovni qui peint de manière glacée, froide?
Oui, comme ça, c'est vrai, c'est très froid, mais en même temps, on a même l'impression qu'il va sortir du tableau, tellement les couleurs...
Oui, c'est un cadrage de cinéma, sur fond de New York en plus, avec un côté très sombre à la Murnau.
Mais avec une main qui n'a pas été terminée.
Oui, alors ça, c'est une... c'est pas une astuce,
c'est un message.
C'est un message de Tamara, puisqu'elle quittait son mari à cette époque-là.
Ah, donc elle a enlevé la bague.
Elle a pas voulu peindre l'alliance.
Et donc, le décor derrière, ce sont des grands buildings américains, parce que j'imagine qu'elle était partie aux États-Unis à ce moment-là.
Alors, elle est partie, elle a fait un voyage à New York en 1927-28, si ma mémoire est bonne, elle est revenue en France. Et puis, en 32-33, avec la montée xénophobe, elle est Negorska, elle est juive, en fait. Elle va se remarier avec le baron Kufner, qui est un Hongrois, et elle part... Elle a fait un beau mariage, elle est millionnaire, et donc ils vont s'installer à Hollywood et à New York à la fois, et là elle va meuter grand train jusque dans les années 60. Mais alors c'est à ce moment-là justement que son art tombe complètement, elle n'arrive plus à faire des tableaux très importants, et donc c'est une météorite cette Tamara Lempicka, parce que sur 10 ans elle a produit des chefs-d'œuvre qui sont reproduits en cartes postales, en affiches dans le monde entier. Et là, je crois qu'il y a 170 000 réponses sur l'Internet à Tamar Olympica. C'est assez extraordinaire. Et par contre, effectivement, quand elle devient riche, eh ben, son talent est parti, en quelque sorte.
Je cherche un millionnaire, un type chic qui voudrait bien de moi, au moins une fois par mois. Je cherche un millionnaire qui me dirait froidement, tout ce que j'ai c'est à toi. Je cherche un millionnaire pour avoir des trucs comme les stars, pour manger des homards. Je cherche un millionnaire, c'est pour ça que je fais le boulevard. C'est facile d'être chic quand on a beaucoup de fric.
On termine par une salle qui rend hommage aux artistes de l'École de Paris.
D'accord. Mais l'École de Paris, c'est un concept ou c'est... Qu'est-ce que c'est en fait l'École de Paris ?
On l'avait redéfini un petit peu avec Michel Hogg, quand on a... Michel Hogg disparu aujourd'hui, malheureusement, qui était grand spécialiste de l'impressionnisme, directeur du musée de l'Orangerie. Et il avait fait notre première préface. On avait appelé notre exposition l'École de Paris-Boulogne. C'est un peu court-cycliste, mais bon. Alors l'École de Paris, pour nous, et pour lui, c'était toute l'Europe centrale. C'est ce que Jacques Lassaigne parle de, des couleurs fortes, expressionnistes, qui arrivent à ce moment-là en France, qui déferlent en France, et qui régénèrent un peu, quelque part, notre peinture. Alors, ce n'est pas la peinture, ce n'est pas Ingres, on n'est pas dans le dessin, on est dans, plutôt dans la couleur, on est avec Soutine, vous voyez, on est avec des gens comme ça. Alors, notre salle, on l'a fait autour de Blatas, qui était un Lituanien qui nous a offert sa collection. Et puis sur les Russes, les Lituaniens, les Polonais, les Hongrois qui sont venus à Boulogne en grande masse, sur 40 000 ouvriers de Renault, il y avait 10 000 Russes. Donc il y a une église russe, il y a une communauté russe. Les Russes plus fortunés habitent le quartier nord, c'est le grand-duc Paul, c'est Youssoupov, l'assassin de Rasputin. Donc voilà, on a voulu raconter ça. Et donc vous avez Oscar Michalinov, qui habite la maison de Le Corbusier, une maison construite oui. pour lui par Le Corbusier. Vous avez Lazar Volovic, Isaac Dobrinsky, Ernst Lubitsch. Là, on a un tableau amusant de Blatas qui représente le Café du Dôme.
On a l'impression que ce sont des peintures que l'on pourrait voir au musée d'Orsay, des peintures du 19e siècle.
Oui, oui, c'est ce Café du Dôme, il est. Effectivement, il a une ambiance un peu à la Devambèze qui est présent à Orsay. Là, c'est une vue de nuit, un tableau qui est souvent emprunté maintenant, qui fait un peu le tour du monde.
On a l'impression d'une photo en noir et blanc.
Voilà, exactement. Puis il a réuni, alors de manière imaginée, parce qu'à mon avis, ils se rencontraient, mais ils n'étaient pas tous ensemble. Alors vous avez sur le tableau Giacometti, Zadkine, Cremaigne, Soutine, Jacques Lipschitz, Blatas, Manekatz, Fujita, Kissling avec la cigarette. Donc il les a tous connus, il avait une admiration pour ces grands peintres. Lui était un Blatas, c'est un Lituanien et puis un émigré de la deuxième génération, je dirais, puisqu'il arrive en 26 en France. Et pour lui, Café du Dôme, la coupole, c'est Paris, quoi. Donc d'ailleurs, il se trompe en descendant à la gare du Nord. Il va dans un café qui s'appelle Le Dôme, mais qui n'est pas le bon. Et donc, il attend impatiemment les artistes qu'il ne voit pas. Donc, il a rejoint Montparnasse le lendemain.
Parce que l'École de Paris, voilà, c'est essentiellement dans le quartier Montparnasse. Voilà. Il y avait tous leurs ateliers là-bas, notamment Giacometti.
Oui, tout à fait. Alors, il y avait Montparnasse et puis la banlieue. C'est pour ça, Paris-Boulogne, c'était un peu ça. C'est-à-dire que Picasso habite Montrouge, par exemple, à l'époque. Jean Gris, Lazar Volovic, Nathan Eminitov, qu'on n'a pas cité, habite Boulogne. Donc on habite souvent ou la ruche dans le haut, au Vaugirard. Et on se retrouve, par contre, à Paris pour échanger des idées.
Nous arrivons au terme de
l'exposition. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour du musée. Il y a bien sûr la réserve, mais ça, c'est un endroit secret, mais assez formidable. Et donc voilà, c'est un nouveau musée qui existe dans cette formule agrandie dans l'espace Landowski depuis 1998. On a une bonne fréquentation. Les bonnes années, nous avons 70 000 visiteurs quand on a fait une expo temporaire sur Tamar Olympica et Jacques Lipschitz. Mais on attend toujours plus de monde. On est visité par les étrangers, par les Américains, par les Australiens, quelques Japonais, puisque, comme je disais, c'est un...
Les années 30,
c'est un courant qui a irradié un petit peu. Je crois que c'est un musée à découvrir sur un parcours dans la ville avec l'hôtel de ville de Tony Garnier juste à côté. Donc je crois que ça mérite une promenade.
Eh bien, j'espère que nos auditeurs, en écoutant cette émission, auront envie de venir jusqu'ici, donc à Boulogne-Billancourt. C'est le métro Marcel Samba.
Hein, métro Marcel Samba, voilà.
Métro Marcel Samba. Donc tous les touristes peuvent venir et tous les gens qui n'habitent pas forcément Paris peuvent venir jusqu'à Paris et prendre le métro pour venir jusqu'ici. Eh bien, merci Emmanuel Bréhon. Donc je rappelle que vous êtes directeur de ce musée, musée des années 30. Ici à Boulogne-Billancourt. Merci de nous avoir accordé tout ce temps pour nous avoir donné tous ces détails sur ces différents courants artistiques qui se sont déroulés au cours des années 30. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.